participants dans la limite des stocks disponibles, sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur audi.fr.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
Rouge des prés.
De chez le boucher.
En boucher.
En faufilé.
En anglais.
Dans un étoilé.
Dans un troquet.
En pavé.
En chili con carne.
Grillé.
Mariné.
Rissolé.
En gelée.
Fumé.
Parfumé.
Mijoté.
Snaqué.
Du Loiret.
De Vendée.
De Franche-Comté.
Et sans compter.
Chez nous, le bœuf. Qu'il y en a pour toutes les bouches.
Visio Confucius. Tu vois, toi qui travailles à ton compte, la mutuelle de demain te permettra d'être indemnisé si t'es arrêté.
Ok, ben, ta mutuelle de demain m'aurait bien servi aujourd'hui, en fait, parce que là, mes clients, ils comprennent rien à ce que je dis.
Être obligé de travailler quand on est arrêté, c'est du passé. Avec Aesio Mutuelle, les professionnels bénéficient de garanties santé ou prévoyance adaptées à leur statut, comme l'indemnisation perte de revenus en cas d'arrêt de travail. Aesio Mutuelle, c'est ça, la mutuelle d'aujourd'hui. Informations et conditions en agence ou sur aesio.fr.
Europe 1, il est 20h. Le point sur l'info avec Maëlle Hassani. Bonsoir Maëlle.
Bonsoir Elisabeth, bonsoir à tous. Un septuagénaire poignardé dans le hall de son immeuble à Marseille. Ça s'est passé la nuit dernière, cité du Mel, dans le 14e arrondissement de la cité phocéenne. La victime a rapidement été prise en charge par les secours. Son pronostic vital n'est pas engagé. Antoine Bienveau, à l'origine de ce déchaînement de violence, une simple remarque sur la consommation de drogue des agresseurs.
Oui, la victime de 74 ans regagnait son domicile peu après minuit lorsqu'elle est tombée nez à nez avec une quinzaine de jeunes qui consommaient du cannabis dans le hall de son immeuble. Le septuagénaire leur a signifié qu'il était incommodé par l'odeur des stupéfiants et a alors reçu une pluie de coups ainsi qu'un coup de couteau au thorax. Blessé, il a été secouru par les marins-pompiers de Marseille. Alors qu'il était pris en charge, il a désigné aux policiers trois de ses agresseurs restés sur place pour observer la scène. Les forces de l'ordre ont ainsi interpellé un majeur de 18 ans et deux adolescents de 15 et 16 ans ayant chacun des antécédents judiciaires. Les investigations se poursuivent pour retrouver les autres agresseurs selon le parquet qui a ouvert une enquête pour violence en réunion avec armes sur personnes vulnérables. Sur le réseau social X, le maire de Marseille, Benoît Payan, dénonce une agression inadmissible et prévient que les auteurs répondront prochainement de leurs actes devant la justice.
Antoine Bienveau. Les circonstances de la blessure par balle de Kenji Girac restent très mystérieuses ce soir. Le célèbre chanteur est toujours hospitalisé, il a été opéré cet après-midi. Selon la version livrée au secours par l'artiste, il s'est blessé lui-même au thorax par accident en manipulant un Colt 45 acheté dans une brocante. L'arme a été retrouvée sans chargeur dans un buisson près de l'aire d'accueil des gens du voyage de Biscarrosse dans les Landes où se trouvait Kenji Girac la nuit dernière. Les enquêteurs n'écartent aucune piste. L'adolescent agressé à Grande-Synthe dans le Nord dans la nuit de vendredi à samedi dernier puis laissé dénudé en pleine rue a lui-même été arrêté et placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur la mort de Philippe Kopman. Ce mineur est le cousin de l'un des deux adolescents déjà mis en examen et placé en détention provisoire depuis le décès du jeune homme de 22 ans battu à mort dans la même commune la semaine dernière. On ne connaît pas pour le moment le mobile de la dernière agression en date. Autre agression marquante survenue au cours des derniers jours, celle de la jeune Samara à Montpellier. L'adolescente de 13 ans n'est pas revenue au collège en ce jour de rentrée scolaire. Elle suit désormais les cours à distance et les personnels de l'établissement accusés d'avoir failli à son devoir de protection de la jeune fille avant l'agression ont tenu à faire entendre leur colère en se mettant en grève ce matin à la surprise générale. Le reportage Europe 1 de Charles Huillier.
Le mal médiatique est fait, mais nous pouvons d'ores et déjà affirmer que nous n'avons pas à rougir de notre action collective.
Devant les grilles fermées de l'établissement, les 80% d'enseignants grévistes sont présents. Leur but, s'exprimer. Non, on ne pouvait pas avoir connaissance du cyberharcèlement que subissait Samara, affirme Julien Landais, professeur de français.
Surveiller les réseaux sociaux, quel outil on a pour ça, jusqu'où vont nos missions à ce niveau-là. On n'est pas cantonné derrière notre grille là ici. Mais maintenant, on ne peut pas nous demander d'aller au-delà de ce qu'on peut voir et c'est extrêmement compliqué.
Sauf que du côté de Christine, la grand-mère de Samara, le discours est tout autre.
C'est eux qui avait appelé ma fille pour leur dire qu'elle allait se faire castagner à l'extérieur. Et quand je vois dans les toilettes qu'il y a toutes les insultes sur Samara et tout ça, le directeur de l'établissement, il ne peut pas passer à côté, il devait savoir.
Samara qui, de toutes les façons, n'est pas en état de retourner en classe. Par ailleurs, on ne sait pas si les enseignants, demain, vont assurer les cours ou maintiendront leur grève. À Montpellier, Charles Lhuillier, Europe 1.
Un mouvement social d'ampleur en prévision dans les aéroports jeudi prochain. Les négociations entre les syndicats de contrôleurs aériens et la direction Direction générale de l'aviation civile sur l'organisation du travail ont échoué. L'appel à la grève est donc maintenu pour la journée du 25 avril. Plus de 70% des vols pourraient être annulés. TikTok se dit déçu par l'ouverture d'une enquête de la Commission européenne sur la nouvelle application du géant chinois TikTok Lite. Cet outil lancé en France et en Espagne fin mars récompense les utilisateurs avec des cartes cadeaux en fonction du temps passé sur l'application. Selon Bruxelles, ce mécanisme pose, je cite, des risques graves pour la santé mentale. TikTok Lite pourrait être bloqué dès jeudi en Europe. Et puis après 90 ans d'existence, le mythique cinéma UGC Normandie sur les Champs-Élysées à Paris va fermer ses portes en juin prochain. Le groupe justifie son choix par la chute de la fréquentation des salles obscures sur la célèbre avenue. Fin 2023, une autre salle historique des Champs-Élysées, le Gaumont-Marignan, baissait également le rideau. Vous écoutez Europe 1, il est 20h05, place maintenant à La France bouge avec Elisabeth Assayag.
Merci Maël Hassani, tout de suite La France bouge, on va voyager avec le guide du routard.
Valorisons les entreprises responsables, tout de suite La France bouge avec les trophées Général IPME Enterprise.
La France bouge.
20h, 21h, Elisabeth Assayag.
Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver. Une nouvelle semaine et une joie intacte de vous retrouver sur Europe 1. Bienvenue dans La France bouge, au service de l'entrepreneuriat. La France bouge, une heure d'initiatives positives, d'entrepreneurs, du dirigeant qui ont des envies, des idées et qui foncent. Ce soir, un fils d'instituteur qui rêvait d'être journaliste mais qui a fait mieux que ça. Il a inventé le premier guide qui nous permet de voyager, de connaître les bons plans, les sentiers perdus et l'âme d'un pays ou d'une ville. D'ailleurs, il est parti en Inde en tant que journaliste. En 1971, il se met à écrire un carnet de voyage et le résultat de ce carnet de route, c'est le premier guide du routard, 1973. Depuis 51 ans, le guide s'est développé, il touche tous les voyageurs. Bonsoir Philippe Glouhagen.
Bonsoir, merci de m'inviter.
Merci à vous, bienvenue dans La France bouge, fondateur et directeur du guide du routard. Autour de la table, bonsoir Clara Léger.
Bonsoir Elisabeth.
Avec vous ce soir, on va prendre des nouvelles d'un membre de la grande communauté de La France bouge, de la location de vélos touristiques. Même les bagages sont pris en compte dans
cette
start-up.
Oui, c'est ça, on va prendre des nouvelles d'Hélène Fauveau, c'est la cofondatrice de Paulette, vous l'avez dit, un réseau d'agences de location de vélos itinérants pour faire des road trips, mais à vélo, avec une logistique en effet simplifiée. Elle était venue dans la France bouge en 2021. Depuis, elle a développé son activité à l'échelle nationale.
À l'échelle nationale, alors qu'à l'époque, c'était qu'en Occitanie, je m'en souviens. Dans cette France bouge, une start-up, des Lego, en voiture. Cette start-up s'appelle Ciao Ciao. Après un voyage en Norvège, son fondateur a décidé de créer cet outil clé en main qui transforme les voitures en van aménagé. Bonsoir Julien Boucaud.
Bonsoir Elisabeth.
Bienvenue dans La France bouge.
Merci.
Fondateur de Ciao Ciao. Allez-vous convaincre le patron de ce soir et la coach de ce soir. Bonsoir Marie-Georges.
Bonsoir Elisabeth.
Vous allez bien?
Très bien.
Ravie de vous retrouver.
De même.
Directrice exécutive conseil en développement durable France et Benelux au sein du cabinet d'Accenture. Vous-même, vous êtes entrepreneur, vous avez monté votre entreprise que vous avez revendue depuis. Ça vous a inspiré Ciao Ciao?
Absolument, et on est vraiment dans cette tendance du tourisme durable qu'on a vu se développer énormément. Depuis le Covid.
Ouais.
Et donc je suis très intéressée par ce qu'on va échanger aujourd'hui sur ces nouvelles tendances du tourisme.
Allez, La France bouge sur Europe 1, c'est parti. Aux manettes de l'émission, Christophe Pierrot. C'est l'émission des audacieux et nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Et ce soir, on part en voyage sur Europe 1, quasiment 51 ans, jour pour jour. C'était le 26 avril 1973. Paraissait le premier guide du routard. Vous connaissez tous le guide du routard. Ça fait plus de 50 ans que ce guide guide vos vacances. Il a été rebaptisé il y a 10 ans le routard. Il a été lancé par un jeune homme parisien aux racines bretonnes. C'est vous, Philippe Glouhagen, et nous sommes ravis d'être avec vous ce soir. Alors avant d'entrer dans les coulisses du routard, si vous le voulez bien, Philippe, on va démarrer par le pitch de La France bouge. Le pitch, c'est une minute pour nous raconter votre entreprise. Êtes-vous prêt?
Absolument.
Allez, top chrono, c'est parti.
Le Guide du Routard est une collection éditée par Hachette, pas la première année, mais dès la troisième année, et qui prend ses lecteurs par la main pour leur faire découvrir une destination, mais avec une particularité. Ce sont des voyages en liberté. C'est-à-dire qu'on indique tous les renseignements utiles avant le départ, sur place, toujours dans le meilleur rapport qualité-prix, et surtout pour découvrir de plus en plus des lieux, des choses qui sont un peu oubliées, méconnues, pour éviter, bien entendu, le surtourisme. Voilà en gros le guide du routard, 180 titres, 2,5 millions d'exemplaires par an et 3 éditions étrangères, plus 2 autres éditions pour ce qu'on appelle les beaux livres, les gros livres du guide du routard, publié aussi aux États-Unis et en Allemagne.
Merci de vous être prêté à l'exercice, Philippe Glouhagen, fondateur et directeur du guide du routard. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il est traduit dans plusieurs langues, le routard?
Absolument.
Combien de langues?
Donc en espagnol, en italien, en néerlandais, pour les guides du routard que vous connaissez, et pour les beaux livres, c'est-à-dire les gros livres avec photos, en plus nous avons les États-Unis et l'Allemagne.
Le guide du routard, pour moi, c'est une institution. On a grandi avec ce guide du routard. Est-ce que tu as ton routard pour aller dès qu'on décide de partir en voyage? J'ai envie de revenir d'abord sur votre parcours et sur l'histoire de ce guide, parce qu'il y a une histoire exceptionnelle. Vous rêviez de devenir journaliste. Tout démarre en 1972. Vous êtes à ce moment-là, vous faites des piges à droite à gauche, c'est ça?
Alors, j'étais en fait étudiant à l'ESCP, une école de commerce.
Prestigieuse école de commerce.
Et donc, pour devenir ensuite cadre chez Accenture, éventuellement.
Pourquoi pas, hein.
Et j'avais rencontré un journaliste, Jean Lacouture, qui travaillait sur l'Égypte, et je trouvais qu'il avait une vie absolument fabuleuse. Il rencontrait des archéologues, des ministres pour découvrir des tombes archéologiques, mais comme aucun milliardaire ne pouvait se le payer. Et lui, il avait le contact. Et ce que je trouvais dément, pour moi, fils d'instituteur, c'est qu'il était payé donc pour se cultiver, et il était véritablement payé. C'était pas des vacances. Oui. Et je trouvais que c'était le plus beau des voyages et des métiers.
Donc vous partez, vous le rencontrez?
Je le rencontre, je vais voir des rédacteurs en chef, je vais voir Paris Match, que vous connaissez bien, mais évidemment Paris Match ne travaillait évidemment qu'avec des grandes vedettes, que ce soit Philippe Labreau ou
d'autres grands, signatures.
Des grands noms. Et donc, j'ai compris qu'il fallait aller solliciter des petits journaux qui n'ont pas les moyens de se payer de grands journalistes, mais simplement des jeunes avec de la bonne volonté.
Avec de la bonne volonté, de l'envie. Donc, vous partez sur la route des Andes.
Voilà.
Et là-bas, vous tenez un carnet de voyage.
Je garde un carnet de voyage sous la main pour repérer des petites adresses, d'abord pour mes amis. Et puis très très vite, je me dis, il faut absolument que je le publie. Et le magazine Actuel est ravi de ce style un peu humoristique. Et puis avec des plans et une façon de voir le monde sur un angle très original. Avec un petit peu de culture.
C'est quoi l'angle très original? C'est les petites adresses, c'est les bons plans?
C'est les petites adresses. C'est-à-dire qu'à l'époque, les agents de voyage ne vous invitent uniquement, ne vous hébergent que dans des palaces et des grands hôtels. Moi, c'était l'arrivée des charters. Le guide du routard n'a pas inventé grand-chose. Il est juste arrivé
au bon moment.
Puisque c'était les charters où on vous donnait des vols secs.
La possibilité de voyager, c'est à ce moment-là que le voyage n'est plus un luxe, mais la possibilité, et c'est accessible
et à tous.
C'est ouvert à tout le monde. Votre style plaît tellement, Philippe Glouhagen, vous êtes avec nous ce soir sur Europe 1, que l'on vous propose d'en faire un guide.
Voilà.
Ça, c'est Actuel qui vous dit, faites-en un guide.
Le rédacteur en chef d'Actuel me propose même de rencontrer des éditeurs, qui s'empresse d'ailleurs de refuser le guide du routard.
Combien de maisons d'édition ont refusé le guide du routard? Moi, c'est un chiffre qui, à chaque fois, me sidère.
Je vais vous étonner, 18.
Et s'en mordent les doigts aujourd'hui. 18.
Oui, il y en a quelques-uns qui le regrettent.
Vous avez raison.
Et quand vous savez que l'édition, en fait, je vais vous dire un autre chiffre, c'est 40 personnes. En fait, il y a 40 personnes qui décident de faire les livres ou pas. Alors après, il y a bien d'autres... Donc la moitié de l'édition française a refusé le Guide du
Routard. Donc la moitié des maisons d'édition en France refusent, on est dans les années 70, refusent d'éditer le Guide du Routard. Sauf que vous, vous lâchez pas du tout l'histoire. Vous avez toujours été animé par ce désir d'indépendance. Donc il n'est pas question d'aller dans une entreprise et d'être salarié. Non, vous, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous ne lâchez pas.
Alors, un petit éditeur le prend quand même, et fait faillite, parce qu'il est un peu fragile.
C'est compliqué. Et là,
et à ce moment-là,
commence à prendre.
Alors là, les quatre plus grands éditeurs français viennent me solliciter, Robert Laffont, Albin Michel, Flammarion et Hachette. Et alors, je suis un peu perdu, moi qui n'étais pas du tout habitué à rencontrer les éditeurs. Je recevais surtout des lettres de refus. J'avais même pas les rendez-vous. Et je rencontre Hachette, et qui savait qu'ils étaient en concurrence. Et eux, grands seigneurs, me disent, si vous venez chez nous, on vous offre le copyright de tous les plans de ville Guide Bleu. Qui était une collection.
Ça veut dire quoi, tous les grands plans de ville?
C'est-à-dire que si vous voulez, dans le Guide du Routard, un plan de New Delhi, je vous l'offre. Le plan de la mode Beuvron, je vous l'offre. Et donc, il y avait 500 plans offerts à la rédaction du Guide du Routard. Donc, on a pu sortir le premier Guide du Routard. C'était peut-être pas le meilleur guide du monde, mais c'était le moins cher.
C'était sur quelle ville?
On en avait quatre. Europe, Afrique, Amérique et Asie. À l'époque, je travaillais. On était deux, Michel Duval, qui était que j'avais connu en prépa, et à la suite de ça, la collection a bien démarré. C'était pas un concours. On a fait 52 000
quand même,
avec une réimpression. C'était gentil, mais bon. Et en fait, l'année suivante, on s'est amélioré. Disons qu'on a très vite appris le métier.
Vous avez appris le métier, mais surtout vous avez réussi à trouver la niche, à trouver ce qui allait vous distinguer, à trouver ce qui allait faire qu'on allait avoir envie de l'acheter, ce guide.
Oui,
c'est les bons
que les
plans,
grandes,
c'est les bonnes adresses.
Voilà, les grandes collections de guides, et je pense au Guide Bleu qui existe toujours et que j'adore, et sont des collections qui sont éminemment culturelles. Alors nous, on avait évidemment... De la culture, la différence entre l'hindouisme et le bouddhisme, je peux vous en parler, mais on développait le côté, les Américains disent, le budget guide, c'est-à-dire le guide qui vous donne la façon de faire des économies.
C'est ça,
et
parce
dans
que...
toutes les catégories de prix, que vous soyez riche ou pauvre,
on pouvait trouver quelque chose qui nous convenait.
Un palace à Los Angeles, au lieu de le payer 350 $, moi j'en ai un, le Hollywood Roosevelt Hotel, à 220 $. Et alors ça, avec toute une histoire sur ce palace qui est mythique, ça intéressait beaucoup, beaucoup de gens, et dans toutes les catégories.
Et ça, c'était en 1973-74.
Alors après, oui.
Au fur et à mesure, on parle de quelque chose qui a 50 ans.
Ouais.
C'est-à-dire que c'était la référence. On ouvrait son livre, on touchait le papier et on regardait. C'était un guide qui touchait surtout, à l'origine, vous l'avez dit, les charters, peut-être les gens un peu fortunés qui profitaient de ces avions low cost, ou encore les seniors qui cherchaient des bons plans avec une petite retraite. Mais vous avez réussi à toucher aussi cette clientèle de cadres qui partaient en famille, dans les hôtels, pas forcément en van ou en camping-car. Donc vous avez réussi à toucher toute une population.
On s'est vite rendu compte que le fonctionnement des cadres, c'était surtout de ne pas voyager comme les autres. Et alors ça, c'était notre fonds de commerce. C'est-à-dire qu'on avait des plans absolument fabuleux, puis on a eu des coups de chance. Les Maharajas ont dû vendre leur palace sous le 12e gouvernement d'Indira Gandhi, qui était quand même pro-soviétique, et donc qui saignait à blanc, les Maharajas. Ils ont créé des hôtels. Eh bien, moi, j'ai rencontré, lors d'un voyage en Inde, le Maharaja qui gérait tous ces hôtels-là. Et je lui dis, à l'époque, ces hôtels de Maharaja, c'était le prix d'un 2 étoiles en France. Et je lui dis, OK, ça m'intéresse, mais il faut que vous fassiez une réduction à nos lecteurs. Oui, OK, 10%.
Donc, vous avez déjà le sens là, de dire qu'aujourd'hui, les codes promo que nous donnent les influenceurs, vous, c'était déjà le cas avec le guide du routard.
Le tiers des adresses du guide du routard offrent des réductions à nos lecteurs.
C'est ce que vous nous dites ce soir, Philippe Glouhagen, sur Europe 1. Je me tourne vers vous, Marie-Georges, vous êtes la coach de ce soir. Je crois que vous avez une question pour Philippe.
Oui, et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'au moment où il y a eu cette démocratisation du tourisme, en même temps, il y a eu la volonté d'échapper un peu au sentier battu du tourisme de masse.
Ça a démarré
déjà, et la volonté d'avoir quand même une expérience plus authentique par des bons plans, par des choses qui sont perçues comme étant locales. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est des tendances qu'on retrouve aujourd'hui, cette volonté de ne pas être là où sont les autres, de faire un tourisme plus authentique, plus proche des gens, avec des pratiques aujourd'hui d'écotourisme ou de tourisme solidaire, de tourisme responsable, avec cette recherche-là qu'on retrouve aujourd'hui.
C'est très vrai. C'est-à-dire que au guide du routard, comme mes lecteurs n'ont pas les moyens de se payer des choses préfabriquées, des cérémonies folkloriques ou tout simplement d'aller dîner dans un palace international où on mange les mêmes steaks dans le monde entier. Alors, au guide du routard, nous, n'ayant pas les moyens, on va se contenter du vrai et de l'authentique.
Vous avez su créer, vous qui rêviez d'être journaliste, votre propre ligne éditoriale dès le début.
Oui, et notre support.
Et votre support,
ouais.
Vous êtes un média.
Ouais.
Vous avez dès
c'est
le début.
C'est ça qui est très étonnant.
C'est ça qui est génial, c'est que vous avez réussi à faire de votre passion votre boîte.
C'est-à-dire que ça nous fait vivre, ça fait vivre 120 personnes maintenant, mais surtout, c'est qu'on gère nous-mêmes le support, du moins avec Hachette, bien entendu.
Donc vous avez été le premier guide, c'est vous qui, en France, le premier guide de destination, c'est le guide du routard.
Oui,
et
alors,
après, vous avez été copié
Beaucoup, puisque tous les éditeurs qui m'ont refusé ont passé 50 ans de leur vie à me concurrencer. Après,
donc, c'est le guide du routard, guide français, qui a été précurseur dans les guides de voyage.
Oui, alors ce qui est très étonnant, c'est qu'en même temps, le même mois, sortait une collection en Australie qui s'appelait Lonely Planet.
Lonely Planet. Mais c'est ça.
Et qui est, on dit que ce sont des concurrents, sont surtout des amis et des gens que j'adore, qui ont un peu la même éthique que nous sur les droits de l'homme, sur le rapport par rapport aux autochtones, aux villageois, en disant bah d'abord. Quand vous êtes à l'étranger, l'étranger, c'est vous.
Bien sûr.
Donc, on n'impose rien, on écoute, et puis on dit merci, ça ne vous plaît pas, ben vous rentrez chez vous. Quoi. Mmh. En gros, c'est ça la philosophie du routard, c'est une philosophie basée sur le respect.
Combien de guides vendus en 51 ans ?
55 millions.
55 millions de
mais ma mère en a acheté deux ou trois. Hein.
au début, j'imagine. Est-ce que vous vous adaptez aux conflits géopolitiques ? Est-ce que ça
Évidemment.
Signifie qu'il y a des guides aujourd'hui qui ne paraissent plus ? Par exemple, l'Ukraine, je pense à l'Ukraine.
Mais l'Ukraine, on ne l'a jamais fait. Mais,
vous n'avez
Moscou,
jamais fait le guide du Outar en Ukraine ?
Moscou, on l'a arrêté. Saint-Pétersbourg, on l'a arrêté. Mais on a arrêté les Pays-Baltes, on a arrêté la Roumanie, la Bulgarie. Je peux vous dire que les bêtises de Poutine, ça nous a coûté très cher.
Pourquoi ?
Au routard, parce qu'il n'y a plus de publications, on les a arrêtées.
Il n'y a plus de publications parce qu'il n'y a plus de visiteurs ? Ou parce que c'est un engagement politique pour vous ?
On ne va pas risquer la vie de nos lecteurs en envoyant des lecteurs dans des pays en guerre.
Donc il n'y a plus de guide du routard en Russie depuis deux ans ?
Oui. Tout de suite, on a arrêté. Israël, dès le mois d'octobre, on l'a arrêté, malheureusement, alors qu'on avait fait quatre voyages de réactualisation sur Israël.
C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il n'y a plus de guide du routard pour aller en Israël.
Il y a peut-être des anciennes éditions, je pense que
mais
c'est épuisé.
Mais il n'y a pas d'édition 2024.
Mais il n'est pas question de risquer... d'envoyer. Et puis, les Israéliens ne sont pas à la fête. Ils n'ont pas forcément le temps d'accueillir des étrangers.
Pourtant, ils ne demandent que ça. Les hôtels sont vides.
Je ne suis pas sûr.
Et ils ne demandent que ça d'avoir des visiteurs pour faire tourner le pays. Parce que dans tous les pays en guerre, ils ont besoin aussi de
bien
touristes.
Bien entendu. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la priorité du moment. En tout cas, nous, ce qui compte, c'est la sécurité de nos lecteurs. On a arrêté, ça nous coûte très cher, mais pas de risque pour nos lecteurs.
Pas de risque pour vos lecteurs. Allez, tout ça est passionnant. Vous restez autour de la table de La France Bouge. Philippe Gloagen sur Europe 1, fondateur et directeur du Guide du Routard. Le Guide du Routard, c'est voyager à pied, sac à dos, mais aussi en voiture. Il existe, grâce à un entrepreneur français, des kits d'aménagement pour voitures et fourgons qui s'installent en 5 minutes, une ou deux places, mode lit ou banquette. Non, mais c'est très sérieux. Allez, c'est parti, on va prendre la route, on va découvrir Ciao Ciao. À tout de suite sur Europe 1.
Bonjour, c'est Pascal Praud sur Europe 1.
Oui, bonjour Pascal.
Ce qui compte, c'est vous.
Je pense que vous êtes la voix de personnes qui n'osent rien dire et qui sont majoritaires quand même dans ce pays.
Il faut se réveiller un petit peu à un moment donné.
Je sors pas le soir non accompagné.
Est-ce que c'est normal ?
Pascal Praud et vous.
Merci d'être comme vous êtes tous, au cœur des choses.
Alors je vous attends de 9h à 9h30 et de 11h à 13h. À demain sur Europe 1.
Hey. Les industriels, si vous m'entendez, c'est grâce à vous. Oui, vous, les fabricants de matériel audio, d'énergie, de coton-tige. L'industrie est derrière chaque objet du quotidien. Et derrière l'industrie, il y a RS et son million de pièces livrables en 24 heures pour assurer la continuité de votre activité. RS, vous avez le savoir-faire, nous fournissons le reste.
C'est le retour de La France Bouge avec les trophées Generali PME Enterprise.
Europe 1, La France bouge.
Elisabeth Assayag.
Et si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur Europe 1, vous écoutez La France bouge, c'est l'émission des entrepreneurs, des initiatives positives de nos belles entreprises françaises. Et ce soir, on prend la route avec Philippe Gloagen, le fondateur et le directeur du Guide du Routard. Mais oui, on a tous une histoire avec le Routard qui permet de préparer ses vacances en amont, mais aussi pendant. Vous faites très attention, vous nous l'avez dit avant la petite pause, c'est-à-dire que quand il y a un conflit géopolitique, par exemple, il n'y a plus de Guide du Routard en Russie depuis 2 ans. Là, depuis le 7 octobre, malheureusement, vous avez stoppé, vous n'avez pas fait d'édition 2024 pour Israël. Vous nous le disiez hors antenne, même vous avez dû arrêter pendant 15 ans le Pérou.
Le Pérou, ouais. À cause de Sentier Lumineux, qui était un mouvement maoïste terrible, sanguinaire, et qui donnait l'insécurité dans toutes les villes et villages.
Clara Léger.
Oui, depuis tout à l'heure, je me demande, vous-même, vous avez visité combien de pays ? Vous êtes allé dans tous les pays du Guide du Routard, vous-même ?
Alors, bien sûr, j'ai pas visité le monde entier comme les gens le croient, mais j'ai surtout visité tous les pays qui m'intéressaient. Et, et avant de prendre la décision de démarrer un pays, j'y vais et on fait des enquêtes au niveau de la rédaction en chef. Je vous cite un exemple. Cuba a ouvert ses portes dans les années 92. En 93, j'y vais pour savoir si on fait quelque chose sur Cuba. C'est quand même un régime très particulier.
Mais vous suivez les recommandations du Quai d'Orsay. C'est pour ça qu'on vous dites j'arrête d'envoyer par exemple en Russie, c'est parce que vous suivez aussi ce que dit le Quai d'Orsay.
Oui, et de tour opérateur comme Voyageurs du Monde qui sont très au fait, on n'y va pas. Et j'ai décidé de ne pas faire Cuba la première année parce qu'il n'y avait pas assez d'hébergement. Il n'y avait que quelques hôtels de luxe et j'avais dit le jour où Castro ouvrira les chambres d'hôtes, on ira, ce qu'on appelle les paladars en espagnol. Un an après, Palador. C'était ouvert, on y est allé. Mais sinon, ce n'était pas possible de voyager économiquement à Cuba.
Donc, il y a plein de paramètres que vous prenez en compte. Énormément. Mais je vois que le paramètre sécuritaire demeure important. C'est le premier.
C'est le premier. Et après, il y a l'hébergement, il y a les autorisations. Moi, j'ai connu la Birmanie, on avait le droit d'y aller 4 jours. Pour voir Pagan et ensuite...
Et donc ça vaut le coup de faire un guide pour 4 jours
Non, j'ai attendu 11 jours. Quand ils ont fait les visas de 11 jours, on a démarré la Birmanie.
C'est hyper pointillon, on ne s'en rend pas compte.
C'est un travail, c'est comme votre métier.
C'est un travail de détail, de chaque instant. Vous utilisez le Routard ou des guides autour de la table, Marie-Georges ?
Oui, absolument, j'utilise le Routard. Et d'ailleurs, j'avais une question sur les éditions digitales, la digitalisation du Routard. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez énormément développé ? Est-ce que vous avez...
Oui, alors c'est l'éditeur, c'est Hachette qui s'en occupe, qui le gère, parce qu'on a créé Routard.com qui marche très bien depuis une vingtaine d'années, entre parenthèses grâce à Accenture, qui était à l'origine de Routard.com. Et voilà.
Pour le site internet, vous aussi, là-dessus aussi, vous avez été précurseur, parce que vous, ça a démarré en 1996.
Oui, avant tout le monde.
Avant tout le monde, là c'est... aussi, vous avez un temps d'avance.
Ouais. C'est pas que je sois plus fort que les autres, non, mais on avait une culture américaine. Hein, on allait très souvent aux États-Unis. Et en Californie, bon, l'internet existait déjà, donc j'ai embauché deux personnes. Un patron d'Accenture nous a offert un séminaire de formation pour une question qu'on a complètement oubliée. Est-ce que les sites doivent être payants ou gratuits? C'est Accenture qui a donné la réponse et ils ne sont pas trompés.
Ouais. À un moment donné, il faut que ce soit...
Et puis gratuit. Arnaud Lagardère, déjà, gratuit. Votre patron, qui était là et qui m'a financé le premier site de
Routard.com. Oui, parce que Hachette, qui appartient donc au même groupe, c'est important de le préciser. Clara, vous utilisez le Routard?
Oui, j'utilise le Routard et j'avoue que j'en ai même déjà acheté sans partir dans le pays que j'ai acheté.
Vous voyagez? Ou alors on se dit dans trois ans.
En prévision d'un voyage.
Comment on prépare ses vacances? Est-ce qu'on utilise des guides? Est-ce qu'on utilise les sites internet? Comment on se prépare? C'est aussi la question qu'a posée Antoine Fenech à des passants ce matin au micro Europe 1 de la France Bouge. Écoutez.
Quand je sais que je dois partir en vacances, je tape la ville du coup sur internet et je regarde un peu les activités qui pourraient être sympas à faire. En général, j'organise pas à l'avance, c'est vraiment au jour le jour. Je sais que j'aime bien faire par exemple une journée piscine-plage, une journée visite, une journée piscine-plage, une journée activité.
Avant chaque vacances, j'achète un guide, donc un guide Michelin, un guide du Routard ou un guide Lonely Planet, et je regarde dedans donc les endroits à visiter, les points de vue mémorables par exemple, les musées, les bons restaurants, etc.
J'aime bien aller sur les sites tels Viator et TripAdvisor qui propose toujours des activités intéressantes. En général, on peut réserver longtemps à l'avance.
J'essaie d'aller courir, faire mon petit footing dans la ville ou à l'endroit où je pars en vacances. Ça me permet aussi de repérer, de découvrir un peu autrement justement les bons spots.
Généralement, je passe par Google Maps. Je regarde où on est situé. Une fois que je suis sur place, avec Google Maps, en fait, je me géocalise et vous pouvez taper en fait vos recherches par type d'activité. Et là, du coup, en fait, Google Maps vous propose plusieurs établissements. Des fois, c'est vague, mais ça peut apporter des bonnes surprises.
Les jolies paroles recueillies par Antoine Fenech pour Europe 1. Vous voyagez comment, Philippe Glohagen? Vous êtes le patron du guide du Routard ce soir sur Europe 1. Vous voyagez comment vous préparez vos vacances avec le guide et après vous voyagez
avec
comment?
Avec le guide du Routard, mais sous forme de manuscrit, avant publication, donc il est tapé à la machine.
Vous aimez le papier toujours, hein, vous allez passer
Moi je suis un amoureux du papier, je suis old school en ce qui concerne l'édition, mais on a un site, routard.com, pour... faire croire qu'on est encore jeune.
Et votre destination préférée, c'est quoi?
C'est très différent, en fonction des lieux, des endroits, des saisons. Je vais vous donner une réponse qui va peut-être vous satisfaire. Le plus important, ce n'est pas la destination, c'est de partir avec la personne qu'on aime. Voilà.
Et ben vous avez raison, parce qu'on peut découvrir encore plus, et à deux, c'est merveilleux, ou plus. Hein. La France Bouge, c'est dénicher des talents, des start-up. Ce soir, une idée un peu folle comme ça sur le papier. Imaginez des caissons de bois que l'on peut ranger dans le coffre et qui deviennent des sommiers quand vient la nuit. On va en parler avec le fondateur de Ciao Ciao.
Europe 1, la France bouge.
La pépite. Avec vous, Julien Boucaud, vous avez 40 ans, vous venez d'Angers, c'est ça?
Exactement.
L'entrepreneuriat, ça a toujours été en vous. Hein, vous avez fait pas mal de villes, vous avez beaucoup voyagé.
Ça a toujours été en moi, mais j'ai jamais vraiment eu l'occasion d'entreprendre de cette manière, en tout cas. Donc oui, je suis passionné de voyage, je suis surtout un passionné de trail, de trek. Et surtout, j'adore la nature, j'adore la montagne.
Vous avez un master en hydrobiologie.
Exactement.
Vous avez fait des études un peu partout, en Mayenne, sur l'île de Oléron, à Nancy, à Metz, à Lille, des stages en entreprise. Et vous avez travaillé pendant une quinzaine d'années avec la nature.
Exactement, oui. J'ai travaillé sur la préservation des poissons et des rivières, donc dans toute la France. Et je me suis spécialisé sur la préservation des poissons migrateurs, donc le saumon, l'anguille, la truite de mer, qui nous apprennent énormément de choses en fait quand on étudie la dynamique de ces populations.
Très précis. Et qu'est-ce qui fait que vous dites, vous êtes resté combien de temps dans... C'est une entreprise française, hein?
Une entreprise française, oui, j'ai travaillé pendant 15 ans, c'était en milieu associatif, donc j'ai essayé de sensibiliser les gens sur ces problématiques de gestion de l'eau, d'impact de l'homme sur la nature, sur la ressource en eau qui nous concerne tous, parce que l'eau qu'on retrouve au robinet, c'est l'eau qui coule dans les rivières, donc on est directement concerné. Et je vous avouerai que quand on produit des indicateurs comme ça au quotidien sur l'état de santé de la planète et qu'on se rend compte que la biodiversité est clairement en train de disparaître autour de nous, hein, c'est pas évident à vivre avec ça. Donc au bout de 15 ans, je me suis dit soit je continue dans cette direction et je prends sur moi et j'essaie de m'épanouir comme ça, mais ça me paraît très compliqué, soit je change totalement de métier et j'essaie de sensibiliser les gens, mais d'une autre manière. Et là, je me suis dit, finalement, le levier de l'émerveillement, c'est un levier qui est universel, qui touche vraiment tout le monde. On s'est tous émerveillés face, je sais pas, à des oiseaux, à un magnifique coucher de soleil. C'est universel. Et je me suis dit, aujourd'hui, tout le monde n'a pas 60 ou 70 000 euros à mettre dans un van aménagé. Par contre, tout le monde a une voiture. Et donc...
Et c'est comme ça que vous vient l'idée.
Donc, moi, j'ai commencé à ménager ma...
C'était en mai 2022.
Ouais, c'était un peu avant, parce qu'en fait, j'ai aménagé ma première voiture avec l'aide de mon papa en 2012 pour faire le tour de la Norvège. Donc, c'était une Logan Break. Je peux vous dire que c'était pas du tout confortable. Et on est parti à trois avec ma femme et mon fils qui avait un an et on a fait le tour de la Norvège.
Allez, c'est comme ça que vous avez eu l'idée.
Et l'idée a germé un peu plus tôt. Et en revenant de la Norvège, je me suis dit, mais en fait, ça sert à rien d'avoir un énorme volume, d'être suréquipé. Il suffit juste de bien penser son aménagement. Et quand c'est bien pensé, bien on peut dormir confortablement, on peut se faire à manger, on peut ranger ses affaires. En fait, on retrouve toutes les fonctions
du camping-car,
d'un van aménagé ou d'un camping-car, mais dans sa voiture.
Dans sa voiture, allez-y.
Et surtout, ça évite d'acheter un deuxième véhicule. C'est son véhicule de tous les jours qu'on transforme en 5 minutes, tout seul et sans outils, grâce au kit Ciao Ciao.
Eh ben justement, vous allez nous dire comment ça marche en une minute aussi pour le pitch Ciao Ciao. Je crois que vous avez l'habitude des pitchs. Hein. Donc c'est parti, on vous écoute. C'est à vous Julien Boucaud.
Alors Ciao Ciao, donc c'est un kit d'aménagement en bois qui permet de transformer sa voiture de tous les jours en un van aménagé. Donc ça s'installe en 5 minutes seul et sans outils. C'est compatible avec plus de 140 modèles de voitures et d'utilitaires. Donc ça représente 25 millions de voitures en France et 200 millions en Europe. C'est fabriqué durablement dans notre atelier à Angers avec des ressources locales. On utilise du peuplier qui est cultivé dans les Pays de la Loire. Il n'y a pas de colle, pas de produits chimiques, tout est réparable. Et surtout, on travaille avec l'aide de personnes en situation de handicap dans un ESAT qui nous aide à concevoir les mousses et qui nous donne un coup de main à l'atelier pour concevoir ces kits.
Parfait, voilà. Moins d'une minute, mais c'est très très clair. Julien Boucaud, fondateur de Ciao Ciao. Ça vous inspire quoi autour de la table, Clara ?
Moi je trouve ça super, mais alors personnellement j'ai une toute petite voiture.
Mais c'est possible.
Est-ce que ça fonctionne quand même ?
Mais c'est grand.
Oui,
alors techniquement, si on ne peut pas s'allonger dans la voiture une fois qu'on a rabattu les sièges, ça va être compliqué à moins d'ouvrir le coffre. Mais 140 modèles de voiture.
Genre la Twingo, la C1 et compagnie.
Alors ça c'est un peu court. Par exemple, on aménage la Sandero. Sandero, ce n'est pas une grosse voiture, c'est quasiment une citadine. Et pourtant, on a 1,90 m de long par 1,30 m de large.
Et on ferme la voiture.
Et on dort dans sa voiture.
Parce qu'il faut avoir des autorités. Enfin, est-ce qu'on doit dormir sur les emplacements des camping-cars, des caravanes, ou on dort...
Ce n'est pas du camping sauvage, à partir du moment où on dort dans sa voiture. Ce qu'il faut, c'est faut pas aller là où on a clairement une interdiction de stationner et de passer la nuit.
Mais si je me gare sur une place normale, il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de problème.
Ça vous inspire quoi, Philippe Glouhagen ? Vous êtes le patron du guide du routard.
Une petite question. Le lendemain matin, ça se plie pour rouler, pour aller ailleurs. Ou c'est compliqué de tout ranger
Non, on peut même laisser l'installation en place et rouler avec à deux. Et là, sur nos nouveaux produits, on peut même rouler à 4 ou à 5 en conservant la banquette arrière. Une fois qu'on est arrivé, on rabat la banquette. On transforme sa voiture en van aménagé en 5 minutes. Et le matin, il suffit juste d'enlever 3 modules. Ça se fait en moins de 5 minutes.
Donc ce sont des kits ?
Ce sont des modules assemblés qui s'assemblent seuls.
C'est des Legos, c'est ça ?
Mais ce n'est pas monté soi-même, c'est déjà monté en fait.
Ouais, qui s'imbrique.
Qui s'imbrique, exactement.
Ça s'imbrique les uns avec les autres. Marie-Georges, ça vous plaît ?
Ça me plaît beaucoup. Alors moi, j'ai pas mal pratiqué le van. Et donc pour répondre à votre question, Elisabeth, le grand avantage du van par rapport au camping-car, c'est qu'avec un camping-car, vous êtes obligé de dormir dans un camping, des emplacements désignés. Alors que le van, à partir du moment où il n'y a pas de sanitaire, ce qui est le même cas que la voiture aménagée, vous pouvez dormir où vous voulez alors, à condition que ce soit autorisé. Tout, oui. Et il y a des applis formidables, je fais la pub, mais Park4Night, c'est la grande appli des vanneurs et des campeurs, et où vous avez des emplacements même de camping sauvage autorisés, avec des avis de gens qui sont allés et qui disent, bah là, vous pouvez dormir, vous pouvez rester la nuit, etc.
C'est extraordinaire.
Et donc, on peut avoir des vraies expériences en pleine nature, de réveil en pleine nature, qui sont assez...
Vous êtes très... Marie-Jean, vous êtes très vanne, vous.
Bah, j'ai fait beaucoup en famille, en France notamment, et
c'est sympa.
Un petit peu, et c'est vraiment très très agréable. C'est, je trouve que c'est des voyages formidables. Ce que vous disiez, Philippe, tout à l'heure, ce qui est important dans le voyage, c'est de voyager avec ceux qu'on aime. Et ça, c'est vraiment un mode de voyage qui permet ça et qui permet vraiment des découvertes très différentes. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ces expériences-là.
Au niveau de la start-up, Marie-Georges, vous en pensez quoi ? Là, aujourd'hui, la start-up existe depuis mai 2022, c'est bien ça, Julien ?
Oui, j'ai créé l'entreprise en mai 2022.
Ouais.
Et j'ai vendu quelques kits en 2022, donc j'ai démarré tout seul dans mon garage, hein, en quelque sorte. Je suis pas menuisier de métier, donc il a fallu quand même apprendre la menuiserie. Et puis ça s'est réellement lancé en janvier 2023, donc on a un peu plus d'un an d'activité.
Et là, au niveau en un an, vous avez déjà un petit recul. Ça marche comment ?
La première année, on a vendu 350 kits en France et en Europe.
C'est pas mal. Hein.
Et donc, sans être structuré, sans avoir vraiment de stratégie marketing, parce que j'avais pas non plus le budget. J'ai démarré avec 1000 euros en fait cette entreprise. Donc là, on vient de faire une levée de fonds participative, parce que c'est vraiment dans l'esprit du projet, c'est de développer un réseau d'ambassadeurs et de personnes qui partagent nos valeurs de minimalisme.
Pour pouvoir en parler et être prescripteur.
Exactement. Et donc on s'est structuré. Aujourd'hui, on est 15 salariés. On a un outil de production qui nous permet de maîtriser toute la production du produit de A à Z.
Elle est fabriquée où ?
À Angers, dans notre atelier.
Avec l'atelier. Et combien ça coûte si nous on a envie d'en acheter ?
Ça coûte entre 890 euros pour un kit une place à mettre dans sa voiture, jusqu'à 3500 euros pour un kit complet qui permet d'aménager un van.
J'arrive pas à savoir si c'est cher ou pas, Marie-Georges.
Bah, c'est-à-dire que si on compare effectivement au prix du van, qui est effectivement autour de 60 000 euros, c'est effectivement relativement économique. Et moi, ce que je voulais dire, c'est valider un peu le positionnement marché. C'est-à-dire que même avec des vans à 60 000 euros, on est en pénurie. Hein, aujourd'hui, on ne peut plus. C'est très compliqué d'acheter un van. Il y a des délais très importants. C'est pour dire qu'il y a énormément de gens qui favorisent maintenant ce type de tourisme. On a vu entre le printemps 2019 et le printemps 2022, les recherches en ligne pour les voyages durables exploser, multiplier de 150%. Hein, donc c'est vraiment une tendance. Il y a aujourd'hui le Conseil mondial du tourisme et du voyage qui dit que 70% des voyageurs aujourd'hui recherchent des modes de tourisme durables, c'est-à-dire à la fois en termes de environnemental, de préservation des écosystèmes, tout ce que vous décriviez, Julien, et aussi en termes de contact avec les populations locales, respect des communautés locales, etc.
C'est l'ADN du guide du routard.
Et ça, exactement.
C'est
vrai qu'aujourd'hui, on a un vrai marché.
Je suis ravie qu'on se retrouve autour de votre micro.
Donc il y a un marché, c'est
ça
que vous dites, Marie-Georges.
Il y a un marché et les 350 kits que vous avez vendus la première année en témoignent.
Ça en témoigne. Vous êtes parmi nous ce soir sur Europe 1, Julien Boucaud aussi, parce que vous avez des besoins. Donc vous nous avez dit créer ce réseau d'ambassadeurs pour pouvoir être prescripteur, donc créer cette communauté. Vous avez déjà pas mal de followers, près de 13 000 sur Instagram, j'ai vu.
Ouais, au total, on a plus de 40 000 personnes qui nous suivent sur les réseaux
c'est
en cumulé,
mal,
donc ce qui est
bien.
Plutôt bien en un an. Ouais.
Donc il faut vendre plus de kits, développer une nouvelle gamme de modules pour aménager peut-être des fourgons ou des vannes qui existent déjà. Marie-Georges, vous êtes penchée sur toute cette question, vous êtes la coach de ce soir sur Europe 1, mais juste avant, si vous le voulez bien, on va faire une petite pause en musique, on va rester sur la route avec Pink Floyd, Another Brick in the Wall, à tout de suite sur Europe 1.
We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm classroom. Teacher, leave them kids alone.
le bon son de Pink Floyd sur Europe 1. Another Brick in the Wall.
Europe 1, la France bouge.
Elisabeth Assayag.
Mais évidemment qu'elle bouge sur Europe 1, cette France. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Une France qui rêve d'aventure, de voyage. Heureusement, depuis 51 ans précisément, existe le guide du routard. On a la joie d'être avec son fondateur et son directeur ce soir, Philippe Glohagen. Philippe, le guide du routard, c'est une communauté qui existe depuis plus de 50 ans. Il y a des enfants, il y a des bébés, guide du routard ?
Absolument.
C'est vrai.
Le guide du routard, mais les gens ne le savent pas, je vous donne un scoop.
Ah,
c'est un moyen de se rencontrer quand au bout du monde, vous avez une charmante demoiselle à côté, sur la table à côté, qui a un guide du routard. Bonjour, vous êtes française, vous avez trouvé un bon restaurant. Ah oui, puis ce soir, je vais aller dans un bar, là, pas très loin. Bon, on peut éventuellement y aller ensemble.
Mais voilà.
Et là, six, huit mois après, on reçoit des faire-part de mariage. Et un an ou deux après, on reçoit le guide du moutard.
Excellent. Justement, parlons du guide du moutard. Il y a un guide pour enfants qui vient de paraître.
Absolument.
Le guide du routard dédié aux enfants, je trouve qu'il est extraordinaire.
Vous êtes très bien documenté. Il y a eu plein de tentatives de faire des guides pour les enfants.
Mm.
Ben, les gamins, je vous le dis tout de suite, c'est pas la peine, ils s'en fichent, ils n'en veulent pas. Par contre, de faire des énigmes dans un lieu, on en a sorti trois.
C'est le Château de la Loire, notamment.
Château de la Loire, donc ça s'appelle Mission Routard. Pour les 8-14 ans, et puis à Chambord, vous rencontrez un gardien qui, c'est un roman, qui vous dit « Oh, viens nous voler tel tableau. Mais c'était lui qui a construit ce château. Comment il s'appelle ?» Donc le gamin se renseigne, c'est François Ier. Et pourquoi à Chambord ? Et il y a toute une enquête, et on se cultive. Et
on cultive, et il y en a aussi pour les enfants. C'est-à-dire que parfois, ça peut être un petit peu contraignant pour les enfants quand on les emmène visiter. Là, ils ont leur énigme, jeu.
Oui.
C'est totalement
et
ludique.
Et c'est des petits chapitres. Il y a Chambord, le vernis. Ensuite, c'est Rome et Londres. Et notre ami Bertrand Pluart qui a eu cette idée absolument fabuleuse. C'est un gros succès parce que là, on s'y attend pas. C'est un guide. En fait, on se cultive. Mais ça ne se voit pas, ça ne se sent pas.
Marie-Georges, vous avez une question pour Philippe.
Est-ce que les guides sont faits par des Français qui vont sur place ou est-ce que c'est des gens, des locaux qui habitent le pays qui font les guides ?
Jamais de locaux. C'est une source de corruption. Chacun a son petit resto d'une copine et tout. Donc on
vous
envoie
prenez la liberté de communauté, l'indépendance.
On a une agence de voyage au guide du routard et tous les deux jours, il y a une équipe qui part au bout du monde et qui n'a pas de lien. Alors, ils parlent la langue, ils ont une culture en béton
mais
armé.
Ils restent le plus indépendant, le plus neutre possible. Ils ne sont
ne
pas
connaissent
corrompus.
Pas. Et en plus, on ne se présente pas au guide du routard. Donc la corruption n'est pas possible.
Ce n'est pas possible. Quel est le guide qui fonctionne le plus, Philippe Glohagen ?
C'est variable, mais je vous dirais, dans le hit parade, c'est la Corse, en nombre d'exemplaires.
Ah, j'aurais cru Londres ou Madrid, moi.
Pas du tout. Le deuxième, c'est la Bretagne. Mmh. Mais comme on a Bretagne Nord et Bretagne Sud, on fait la somme. La Bretagne est numéro un des guides de routard.
Cher à votre cœur, Philippe Glohagen. On va poursuivre avec Julien Boucaud, fondateur de Ciao Ciao. Ciao Ciao, c'est la start-up de ce soir. Ce sont des kits qui nous permettent de transformer notre voiture en van pour pouvoir voyager en toute tranquillité et découvrir la nature. Si vous êtes parmi nous ce soir, Julien, c'est parce que vous avez des besoins. Et comme chaque soir sur Europe 1, nous avons une coach dans la France Bouge. Ce soir, c'est Marie-Georges.
Europe 1.
Le réseau La France Bouge.
Marie-Georges, vous êtes la directrice exécutive conseil en développement durable France et Benelux au sein du cabinet de conseil Accenture. Comment pouvez-vous aider ce soir la start-up Ciao Ciao, Julien Boucaud ?
Julien, moi je me suis posé la question en regardant Ciao Ciao, des modes de commercialisation en fait. Aujourd'hui, comment est-ce que vous faites pour faire parler de vous ? J'ai vu qu'il y avait quelque chose d'ailleurs qui ressemblait à un blog, un guide pour inciter les voyageurs à partager leurs expériences. Est-ce que vous êtes uniquement dans le B2C ? Est-ce que vous avez des partenariats ?
On a des partenariats, mais aujourd'hui on fait la majorité du chiffre d'affaires en B2C, en direct. Donc on est en train de mettre en place une stratégie marketing pour toucher des audiences qualifiées, des gens qui ont déjà une vraie affinité avec l'outdoor, des gens qui font du sport, des artisans, des... Enfin, le kit, il a vraiment plein de domaines d'applications différents, donc on est une cible qui est très variée. Mais nous, ce qu'on veut, c'est inciter quand même, enfin, travailler avec des partenaires qui partagent nos valeurs. Et surtout, c'est un produit qui n'est pas si évident que ça à vendre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il est exposé qu'il se vend. C'est un produit qu'il faut conseiller le client, il faut le mettre dans le véhicule du client, il faut rassurer le client sur le fait de lui expliquer qu'on peut dormir confortablement dans sa voiture. Et donc, pour garder...
C'est vrai qu'il faut le rassurer. Moi, j'avoue, j'ai du mal à me projeter là.
Mais justement,
non, mais c'est vrai.
À dormir dans la voiture.
Ouais, installer mon matelas, mon kit, ciao, ciao. C'est pour ça que c'est important, c'est ce que vous disiez, de rassurer. Oui. Et d'expliquer, il y a de la pédagogie, je pense.
Et donc, on accueille les gens à l'atelier. On a des gens qui viennent des quatre coins de la France. On a des Parisiens, des gens de Brest, des gens du sud de la France qui viennent à l'atelier. On prend une heure avec eux pour installer le kit, échanger avec eux. Et c'est ce qui permet aussi de développer notre communauté, puis de faire passer des messages. Et les messages, c'est écoutez, vous n'avez pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour vous émerveiller. Mettez le kit dans votre voiture le soir et allez dormir à 10 minutes de chez vous, sur les bords de Loire ou dans une forêt. Et vous verrez que ça ne sert à rien de partir 3 semaines, et surtout, ça ne sert strictement à rien de partir suréquipé. Le bonheur est à portée de main, c'est un peu le message qu'on fait passer. Et ensuite, nos meilleurs vendeurs, ce sont nos utilisateurs.
D'où l'idée des ambassadeurs.
Absolument, et je pensais aujourd'hui à peut-être à faire des partenariats avec des... soit des guides, alors pourquoi pas avec le routard, parce que je trouve qu'effectivement, vous avez un ADN commun qui pourrait être intéressant. C'est intéressant d'ailleurs ce que vous disiez sur les guides les plus vendus. Finalement, les guides les plus vendus, c'est la Corse et la Bretagne, c'est donc on est vraiment sur de la destination locale et qui se prête très bien à ce type de voyage. Par exemple, un week-end, puisque ce que vous disiez, Julien, c'est intéressant aussi, c'est que c'est pas forcément pour des voyages longs. Ça peut être aussi un week-end et du coup pas loin de chez soi, et du coup où il est intéressant d'avoir un guide comme le routard qui donne des informations très locales, très pratiques. Donc pourquoi pas des partenariats ou avec des plateformes parce qu'il y a eu aussi énormément de plateformes qui ont été créées pour ce type de voyage, hein, ce type de voyage plus locaux, plus responsables, des plateformes internet, peut-être où vous pourriez être mis en avant comme solution.
Oui, donc un partenariat, pourquoi pas, ou avec des agences de voyage aussi.
Absolument. Hein,
ça pourrait être intéressant. Philippe Gloagen, vous avez déjà un aperçu des vacances, des destinations pour cet été? Parce que vous le savez, vous, avec les ventes, les connexions. Parce que sur Internet, quand on va sur le routard.com, on a le guide, ou c'est encore une autre, d'autres papiers, d'autres contenus?
Routard.com est un site qui vous aide à choisir la destination.
Et après, on va
vous choisir. Vous allez en Asie. Alors, est-ce que je vais à Bali ou je vais en Malaisie? On ne connaît pas forcément. Eh bien, le guide de Routard.
Donc, c'est un complément du guide.
Non, c'est au départ. C'est-à-dire, ça vous donne une idée avec des photos. On vous explique que la Malaisie,
c'est mieux,
c'est musulman, c'est particulier. Bali, c'est hindou, donc c'est pas du tout la même culture. Et ça vous aide à faire des choix.
Et ensuite, on se l'achète en format papier.
On a quelques adresses, quelques lieux, mais c'est pas suffisant pour organiser votre voyage.
Cet été, est-ce que vous avez déjà un aperçu des destinations?
La France remporte le pompon. Malgré les JO, moi je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de gens qui vont quitter Paris. Vous savez que les hôtels ne font pas le plein. Les chambres d'hôtes, oui, mais pas les hôtels. Donc, il y a encore des places. Profitez-en. Et je sais qu'il y a des lecteurs qui vont en profiter pour... quitter Paris
et aller
en Bretagne. C'est obligatoire.
Obligatoire, passage obligé. Ou alors en Corse. Vous savez que la France Bouge, c'est aussi une grande famille. C'est comme la grande famille Europe. Hein. Alors, on va prendre des nouvelles des membres de la grande communauté de la France Bouge.
La France Bouge. Que sont-ils devenus?
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette.
Philippe Gloagen, vous êtes le fondateur du Guide du Routard. Une vingtaine d'itinéraires à bicyclette à faire en famille ont été sélectionnés par le guide, dans un guide qui est sorti il y a à peine quelques jours. Pourquoi vous vous êtes concentré sur ces voyages à vélo?
Parce que c'est une demande. Nous avons la chance d'habiter la France, qui a les plus belles pistes cyclables d'Europe, financées par la communauté européenne. Elles sont extraordinaires. Il y a même des réparateurs de vélos. Il n'y a pas de voiture. Et c'est une façon de découvrir un rythme humain les plus belles destinations françaises.
Ça donne envie, hein, ces voyages à vélo. Clara Léger, on va prendre des nouvelles de la cofondatrice de Paulette, Hélène Fauveau. Rappelez-nous, Paulette, ce que c'est.
Alors, Paulette, c'est un réseau d'agences de location de vélos itinérants. Donc, ça signifie que vous pouvez louer votre vélo dans une agence à un point A. Vous partez sur les routes de France pour votre voyage, puis vous le laissez dans une autre agence à un point B. Paulette facilite et simplifie toute la logistique, notamment au niveau des bagages, ce qui peut être parfois réfractaire. Et elle était venue dans la France Bouge en 2021. Depuis, elle a bien développé son activité à l'échelle nationale.
Bravo Hélène Fauveau, bonsoir.
Bonsoir Elisabeth.
Vous allez bien?
Très bien.
On l'entend.
Merci.
Donc
vous, vous également.
Clara Léger l'expliquait, hein, Paulette, P-A-U-L-E-T-E. Vous favorisez ces déplacements, ces voyages à vélo, avec notamment s'associer à des services, avec des accessoires de transport, comme les transports de bagages, par exemple. Vous étiez venu en 2022. À cette époque, c'était des vélos seulement en Occitanie. Depuis, c'est au niveau national?
Donc voilà, depuis mon dernier passage, nous avons donc ouvert différentes antennes à Nantes, à Paris, à Bordeaux, à Lyon et demain à Tours, puisqu'on fait l'ouverture d'une nouvelle agence demain à 9h30.
Et ben, demain, ouais. Mardi, formidable.
Exactement. Et donc,
félicitations.
Un réseau d'une trentaine de partenaires partout en France qui nous permettent aujourd'hui de proposer notre offre sur 12 des plus beaux itinéraires de France à vélo, la Via Rhônale, la Loire à vélo, la Vélocénie, le canal du Midi, pour en citer quelques-uns.
Faut préciser que c'est pas le même métier que les locations de urbaines, hein. C'est pas des locations de vélo comme à Paris. Là, avec vous, on a la possibilité de se déplacer, d'avoir des voyages à vélo.
Absolument. On est vraiment sur de la location touristique et loisirs, c'est-à-dire que l'objectif est de faciliter l'itinérance à vélo, ce qu'on appelle parfois le one-way, c'est-à-dire de prendre un vélo à un endroit, de le laisser à un autre, sans
revenir.
Avoir de problème, et sans avoir à revenir, exactement. Et de problèmes logistiques de transport de vélo notamment, ouais. Pour vraiment passer des vacances à vélo.
Des vacances à vélo. D'ailleurs, vous avez développé aussi une petite activité supplémentaire de vente de vélos électriques neufs.
Absolument. On revend deux marques de vélos électriques neufs sur l'ensemble de nos agences, qui sont Starway et Voltaire, qui sont des marques françaises, dans l'objectif de désaisonnaliser un petit peu notre activité, puisque l'activité de la location et l'activité de la vente sont un petit peu différentes.
On est très content d'avoir de vos nouvelles, Hélène Fauveau, hein, c'est ça la France Bouge, merci à vous. Vous êtes la cofondatrice de Paulette, grâce à vous tous ce soir, on a la possibilité de voyager en voiture, une voiture qui se transforme en van grâce à Ciao Ciao. Merci Julien Boucaud d'être venu ce soir
dans
la France Bouge. Merci Marie-Georges, vous étiez la coach pour vos précieux conseils dans la France Bouge. Clara Léger, on se retrouve demain.
À demain.
Philippe Glouhagen, merci, c'est toujours un plaisir de vous entendre parler de ce guide du routard qui est chez nous, hein, qui fait partie de nos vies. On a tous nos guides du routard à la maison. Je rappelle que vous en êtes le fondateur, le directeur du guide du routard. Si vous souhaitez avoir un soupçon du guide du routard, c'est chaque semaine aussi sur Europe 1, dans l'émission de William Lémergie, Balade en France.
Le dimanche à 11h.
Le dimanche de 11h à 12h30. Vous restez sur Europe 1, dans un instant, le journal de 21h. Et tout de suite après, ce sera la musique avec Joe Hume. Bonsoir Joe.
Bonsoir Elisabeth.
Qu'est-ce qu'on écoute ce soir?
Eh bien écoutez, Elisabeth, c'est la reprise ce soir. Donc on va entamer l'émission avec un tube signé Blur, mais on écoutera aussi Rod Stewart. Il y aura Bob Marley en live dans Hey Joe ce soir, William Scheller ou encore une histoire consacrée à Rocky Erickson, l'un des pionniers du rock psychédélique, mais un mec un petit peu tourmenté, vous allez voir.
Merci Joe Hume, excellente soirée sur Europe 1.
Bonne soirée.
C'était La France Bouge avec Generali PME Enterprise, les trophées qui valorisent les entreprises responsables. Candidatez sur generali.fr/PME.